J'aimerais faire un petit sondage. Est-ce que le livre de Nombre a été lu par quelqu'un en intégralité l'année dernière? Les 3 dernières années, par quelqu'un? Ok, un, deux, trois. Ok. Les 5 dernières années, à plus des trois? Ok. Donc, 6, 7. Ok, c'est bien. Je pense que c'est pas un livre beaucoup lu de la Bible. Peut-être un des moins lus aux côtés de, peut-être, Lévitique et Deutéronome dans l'Ancien Testament. Mais il y a beaucoup d'histoires marquantes. Et c'est de la traversée d'Israël dans le désert. Et avec Larissa et Daniel, on aimerait parcourir certaines de ces histoires qui sont bien connues du peuple. Donc, le livre de Nombre raconte depuis quand Moïse a reçu les tables de la loi au mont Sinaï jusqu'à la frontière de la terre promise. Tout se passe dans le désert et c'est pour ça qu'on a appelé cette série Histoire du désert. En effet, le nom en hébreu pour le livre est Dans le désert. C'est comment s'appelle ce livre en hébreu. Et dans le chapitre 22, Israël avait battu quelques peuples qui étaient dans son chemin. Et maintenant, il y a ce Balak qui est roi de Moab. Il a peur de ce qui peut lui arriver. Donc il pense, je suis le prochain de la liste. Je vois tous ces peuples autour de moi qui ont été déjà éliminés par le peuple d'Israël. Je dois sûrement être un des prochains. Et comme il commence à avoir peur, il envoie des messagers pour chercher de l'aide. Donc c'est dans Nombre 22. Le roi envoya une délégation à Balaam, fils de Béor, qui habitait Pétor sur l'Euphrate, dans le pays des Amavites. Il lui adressait ce message. Il y a ici un peuple venu d'Égypte qui couvre toute la surface du pays. Il s'est installé non loin de chez moi. Viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis-le, car il est plus puissant que mon propre peuple. Si tu acceptes, je pourrai peut-être le vaincre et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Les messagers des notables Moabites et Madianites emportèrent de quoi payer le devin Balaam et se rendirent chez lui. Première chose qui me frappe, c'est que par peur, ils vont chercher de l'aide à quelqu'un connecté à Dieu. Ils ne la recherchent pas personnellement. C'est un contraste, par exemple, avec la ville de Ninive. Quand les habitants de Ninive ont su qu'ils allaient être détruits, ils se sont repentis et ils ont personnellement recherché Dieu. Ils ne sont pas allés chercher d'autres personnes pour aller chercher Dieu à leur place. Ils se sont repentis eux-mêmes. Ben, pas les Moabites. Ils ont mis leur espoir sur quelqu'un. J'ai déjà cité ces versets quand on est arrivé, mais je veux le refaire aujourd'hui, et je vais encore refaire d'autres fois parce que c'est une grande tentation pour nous, les humains. La Bible, elle dit que personne ne mette sa fierté dans des hommes. Et si quelqu'un veut exprimer de la fierté, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Donc je vous dis, ne mettez pas votre espoir en nous, les officiers, ni à l'équipe du CDP, ni sur une activité que cette église peut offrir. Ne mettez pas votre fierté dans un écrivain, dans votre conjoint, ni même dans vos enfants. Ne mettez pas votre fierté dans le gouvernement ou la protection de l'environnement ou n'importe qui d'autre ou quoi d'autre. Si on met notre espoir sur ces personnes ou sur ces choses, c'est sûr qu'elles vont nous décevoir. On va être déçus. Et le roi, il a dit, je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Il mettait tous ses espoirs sur ce monsieur-là, Balaam. Il faisait pleinement confiance à Balaam. Et c'était un grand danger pour lui. Ils lui transmirent la requête de Balak. Et Balaam leur dit, passez la nuit ici. Demain, je donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. Les chefs de Moab demeurèrent donc chez Balaam. Alors Dieu vint demander à Balaam, « Qui sont ces gens que tu as reçus chez toi ?» Balaam répond, et ensuite Dieu lui dit, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. » Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit au notable envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, le Seigneur m'interdit de partir avec vous. » Vous savez, le souvenir que j'avais de cette histoire de Balaam, de mon enfance, je voyais toujours Balaam comme le méchant, le gars qui avait décidé de maudire le peuple d'Israël à tout prix. Et finalement, Dieu l'empêche avec une ânesse qui parle. C'était ça l'image que j'avais de mon enfance, des histoires que je me rappelais que j'avais entendues. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que le texte dit que Balaam était aussi un devin, mais au moins en ce moment-là, il recherche Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Il recherche pas d'autres divinités pour savoir s'il doit aller où. Balaam recherche le Seigneur, il reçoit sa réponse et il dit clairement aux envoyés qu'il ne va pas les accompagner dans ce projet. C'est quand même une attitude remarquable de sa part. Recevoir une conviction de Dieu pour un projet, pour une activité, et avoir le courage de dire non à quelqu'un d'important. Hein, quelqu'un qui est venu pour demander de l'aide, quelqu'un important avec toute une délégation, et puis tu dis non par conviction. Mais le roi, il ne se contente pas. Donc quand il reçoit les messagers, il exerce plus de pouvoir de persuasion. Balak envoya une nouvelle délégation composée de chefs plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils allèrent transmettre à Balaam cette requête. « Moi, Balak, fils de Sippor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Viens donc à mon aide et maudis ce peuple. » Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il va accepter ou non? Balaam continue inflexible et lui répond, « Même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dans son palais est plein, je ne pourrai en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. » C'est quand même impressionnant comme réponse. Il paraît, par cette réponse, en tout cas par la réponse, que même l'argent ne l'a pas fait changer d'avis. Mais alors il dit aux envoyés, « Pourtant, restez ici chez moi cette nuit, vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. » Et alors, il recherche le Seigneur, et durant la nuit, Dieu vient dire à Balaam, « Si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devras faire uniquement ce que je t'indiquerai. » Au matin, Balaam sella son ânesse et partit avec les chefs moabites. Mais le départ de Balaam provoqua la colère de Dieu. Ça semble un peu contradictoire de la part de Dieu, non? Parce que d'abord, Dieu avait dit de ne pas y aller. Après, Dieu dit qu'il peut aller. Mais quand Balaam va, il se fâche. Je pense que c'est un peu comme la relation mari-femme. Le mari veut acheter un nouveau grand barbecue à gaz. La femme dit qu'elle pense que c'est pas une très bonne idée. Que le petit barbecue qu'ils ont, c'est suffisant pour le peu qu'ils utilisent. Le mari insiste un peu, puis elle redit sa position. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Finalement, la troisième fois, il dit, bon, mais vas-y, achète ce machin. Si tu veux l'acheter, achète-le. Mais elle est fâchée parce qu'elle a pas écouté depuis la première fois ce qu'elle voulait. Je pense que ça peut être un peu ce qui représente dans cette situation. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que même dans nos erreurs, Dieu continue présent. Peut-être cette femme, dans cet exemple, va seulement se fâcher, ne plus vouloir entendre parler de ce grill pendant longtemps, une fois qu'il sera arrivé. Dieu, non. Même quand on est têtu, il est encore en train de nous accompagner. Il veut encore nous montrer le bon chemin. Et ça, c'est fantastique. Donc, Balaam se met en route et un ange du Seigneur se place sur la route pour lui barrer le chemin. Et alors l'ânesse le voit avec l'ange, il avait l'épée sur la main, dans sa main. Et alors quand l'ânesse voit l'ange, elle s'écarte du chemin et va par le champ. Et Balaam la frappe pour qu'elle revienne sur le chemin. Un peu plus loin, l'ânesse voit de nouveau l'ange qui s'est mis sur le chemin. Mais cette fois, c'est entre un petit chemin étroit où il y a deux murs pour les vignes. Et donc, quand elle essaye de s'écarter de l'ange, elle coince le pied de Balaam contre le mur. Et là, il est fâché, parce que ça fait mal. Et il frappe encore une fois l'ânesse. Finalement, l'ange se met dans un endroit très étroit où elle ne peut pas se dévier, ni à droite, ni à gauche. Donc, qu'est-ce que l'ânesse, elle fait ? Avant encore. Plus que stopper. Elle se couche directement. Donc, elle peut bavasser, donc elle se couche parce qu'elle veut plus avancer. Et là, le texte dit que Balaam s'est mis très en colère, a commencé à la battre à coups de bâton. Et c'est à ce moment le Seigneur ouvre les yeux de Balaam et il voit finalement l'ange sur la route avec l'épée en main. Il se jette le visage en terre. Et vous savez quelle est la première chose que l'ange lui dit ? Qu'est-ce qu'il lui reproche, l'ange ? On pourrait penser que l'ange allait le reprocher parce qu'il était en train d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais c'est pas ça qu'il dit en premier. L'ange lui demande « Pourquoi as-tu battu ton ânesse à trois reprises ?» Ça, c'est la première chose que l'ange lui demande. La première chose qu'il lui reproche, ce n'est même pas qu'il était en train de cheminer pour maudire le peuple d'Israël. C'était son attitude envers le plus faible. Vous savez, il arrive parfois qu'on est tellement fixé sur une tâche ou un projet à accomplir. On a cette idée en tête que quelque chose, quand quelque chose ou quelqu'un nous empêche de continuer dans le de faire comme on voulait ou de cheminer comme on voulait, on devient agressif. On insulte, on critique, ou on garde un mauvais sentiment contre cette personne qui nous empêche de faire comme on voulait. Je pense que des fois, on devait se demander, et si c'était Dieu qui voulait nous empêcher à travers cette personne ou cette chose ? Peut-être. Pourquoi as-tu battu ton ânesse à trois reprises ? Et l'ange continue, « Je suis venu pour te barrer le passage, car je pense que ce voyage te mène à ta perte. » Dans ce cas, c'était vraiment Dieu qui voulait l'empêcher. C'était pas l'ânesse, c'était Dieu. L'ânesse m'a vu et à trois reprises, elle s'est écartée de moi. Si elle ne l'avait pas fait, je l'aurais tué. Je t'aurais tué, pardon. Mais elle, je l'aurais laissée en vie. Donc je t'aurais tué, toi, mais elle, je l'aurais laissée en vie. La première chose que l'ange dit, c'est « l'ânesse m'a vu ». Et lui, le devin, l'homme important, le voyant, il n'avait pas réussi à voir un danger qui était juste devant lui. Spirituel en plus, hein. C'était sa tâche, de voir des trucs spirituels. Et lui, il n'avait pas vu l'ânesse qui était devant lui. Mais un animal aussi simple qu'un âne a réussi à le voir. Il y avait vraiment un danger. Et plus souvent qu'on imagine, on traite l'opinion, souvent des personnes proches de nous, comme si elles n'avaient pas beaucoup d'importance. On ne le dit pas avec nos mots, mais avec les actions, on peut communiquer. Qu'est-ce que t'en sais ? Moi, je suis très bien où je vais, et ton opinion ne compte pas pour moi. C'est dans la manière d'écouter quelqu'un ou de lui répondre, on transmet ça, sans le dire avec ses mots. Pourquoi as-tu battu ton ânesse à trois reprises ? Est-ce que ta mission est plus importante que les personnes qui cheminent avec toi ? Est-ce que qui elles sont a de la valeur pour toi, plus que ce qu'elles font ? Est-ce que les personnes autour de toi ressentent qu'elles ont un poids dans la balance quand tu dois prendre des décisions ? Que leur opinion a un poids ? Est-ce qu'au milieu de tes projets, tu peux mettre une pause, t'arrêter, pour réellement écouter les personnes qui sont autour de toi et qui peuvent voir des choses que des fois on ne voit pas, même en ayant de l'expérience. Je trouve très intéressant que dans notre cheminement avec Dieu, il veut pas seulement travailler sur une erreur spécifique qu'on a pu commettre, mais il veut travailler profondément, changer la racine, la motivation de base, ce qui est au fond du cœur et qui dirige nos attitudes sans rendre compte. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens cette phrase-là. Tu peux remettre là parce qu'il a disparu. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. De l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Ceux-là, ils enseignaient la loi de Dieu, faisaient des prières, ils venaient à toutes les rencontres du temple, mais là, au fond, ils n'avaient pas la bonne motivation. Et Jésus regardait ça, le plus profond des motivations. Et Jésus leur dit clairement, s'ils étaient beaux à l'extérieur, ils étaient moches à l'intérieur. Et il le dit pourquoi ? Il dit comme ça. Prochain. Vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Voilà. Pourquoi as-tu battu ton ânesse? Quand l'ange a fait cette question, il était en train d'examiner. Quelle est la motivation fond de ton cœur, Balaam, pour aller là, pour faire ce projet? Quand Balaam se fâche contre l'ânesse la troisième fois, j'ai pas raconté, mais elle lui a dit, que t'ai-je fait pour que tu me battes à trois reprises? L'ânesse a demandé. Et puis lui, il répond, tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée sur moi, je t'aurais déjà tué. Il dit à l'ânesse. Et puis elle répond, pourtant je suis ton ânesse, celle que tu as toujours montée. Et j'ai l'habitude de me comporter ainsi avec toi. Finalement, il reconnaît, non, voilà. L'ange et l'ânesse, ils avaient raison de lui demander, pourquoi as-tu battu ton ânesse? Parce qu'en se fâchant comme ça, avec ce plus faible, il n'était pas en train de pratiquer ce que Jésus a dit qui était le plus important dans la loi. La justice, la bonté et la fidélité. La justice, c'est ce qui est juste envers le plus faible. C'est ça la justice. C'est pas la justice de tabasser un âne qui avait peur. C'était pas juste non plus de demander à Dieu s'il pouvait maudire le peuple d'Israël. Dieu avait déjà dit, je le bénis, je vais pas le maudire. Et Balaam, il insiste, parce qu'il voulait accomplir ce projet. Jésus a dit la bonté, c'est être rempli de tendresse envers les autres. Se fâcher jusqu'au point de déverser sa colère sur un plus faible n'est absolument pas être rempli de bonté, c'est le contraire. Et la fidélité, Jésus a dit qu'elle était aussi une des trois choses les plus importantes de la loi. L'ânesse lui avait dit, je suis ton ânesse, celle que tu as toujours montée, en lui disant, je suis fidèle à toi toutes ces années, est-ce que je veux tant mal? C'est ça que l'ânesse demandait finalement. Pourquoi est-ce que tu me traites comme si j'ai toujours fait des bêtises? Sois aussi fidèle avec moi comme je suis fidèle à toi. La question derrière pourquoi as-tu battu ton ânesse peut lui faire réfléchir à Balaam. Est-ce que tu es déterminé dans ce projet juste pour que les gens te reconnaissent en tant que quelqu'un de sage, quelqu'un de proche de Dieu, peut-être l'argent aussi? Où la motivation est vraiment la bonté, la justice et la fidélité à Dieu. Et là, encore une fois, je trouve que l'exemple de Balaam a été très positif, finalement. C'est un peu comme l'histoire, là, on peut s'égarer un petit peu. Il a cherché Dieu au début, mais après, il voulait quand même faire, et puis après, il ne voit pas l'ange. Mais avec Dieu, c'est la même chose avec nous, hein. On s'égare des fois on écoute, et c'est certain, puis on y va, on affirme ce qu'on croit, puis des fois on peut se perdre dans le chemin comme l'exemple que Clarissa a fait avec les enfants. Mais là, c'est de nouveau bien. Balaam, il dit à l'ange, j'ai commis une faute. Il reconnaît, j'ignorais que tu tenais devant moi sur la route. Et il redit, mais maintenant, si ce voyage te déplaît, je suis prêt à rentrer chez moi. Toujours prêt à refaire la volonté de Dieu. Ça, c'est fantastique. Et c'est la même chose pour nous. Reconnaître devant Dieu son erreur, c'est une grande qualité de tout homme et femme de Dieu. Et en plus de reconnaître, être prêt à faire demi-tour. Si le Seigneur me demande d'arrêter ce projet, je suis prêt à arrêter. Mais la réponse de l'ange n'est pas de faire demi-tour, mais simplement de revoir les motivations, de le faire de la manière que Dieu veut qu'il fasse. Ne pas le faire n'importe comment, ou juste pour sa gloire personnelle, ou juste pour l'argent. L'ange, il lui dit, non, accompagne ces gens, mais tu prononceras uniquement des paroles que je t'indiquerai. La semaine prochaine, on va voir la suite de l'histoire, comment il a pu terminer ça. Mais pour cette semaine, je vous invite à être attentif aux obstacles qui viennent dans notre vie quotidienne. Ça vaudrait la peine de demander à Dieu, est-ce que c'est quelque chose utilisé par toi pour me montrer quelque chose que je voyais pas avant? Peut-être un obstacle là, il y a un truc que je vois pas, peut-être dans les motivations d'enfant de mon cœur pour ce projet. Parfois, il veut révéler des choses qui sont là, enfouies dans notre cœur. Et un obstacle nous fait arrêter pour écouter de nouveau. Ça vaut la peine de lui demander d'être attentif. Et dans tous les cas, que ce soit Dieu qui a mis un obstacle ou pas, qu'on choisisse de ne pas décharger toute notre frustration sur le plus faible. Ça serait le contraire de ce que Dieu voudrait dans notre vie.